paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
Mais tout ça parce que on défend l'agriculture de type capitaliste.
D'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Des gens qui se déclarent paysans la tête haute.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Canu, sur le 102.2, et c'est les paysans et paysannes dans la lutte des classes, l'émission sur l'agriculture et les luttes paysannes pendant une heure, un jeudi sur deux. Du coup, aujourd'hui, on va partir dans la Drôme, à la rencontre des personnes de la ferme des Routes, dans la plaine de Valence, à travers quelques entretiens, avec des extraits d'entretiens avec Martin, Patricia et Alain, donc trois des quatre associés de cette ferme. Donc pourquoi on part là-bas pour visiter un peu par la radio des fermes, voir qu'est-ce qu'ils font sur place, comment ça se passe pour les différentes personnes dans les différentes productions, et là-bas en particulier parce que donc la ferme existe depuis 2009 sous cette forme, et c'est Alain qui était installé depuis son enfance sur la ferme, qui a accueilli trois autres personnes avec lui pour transmettre son exploitation. C'est une installation avec la personne qui transmet, qui reste sur la ferme pendant plusieurs années pour transmettre aussi son savoir-faire. C'est une ferme où quatre personnes s'installent dans des productions très très diversifiées, comme on va voir, sur 50 hectares, dans une zone où globalement c'est des monoproductions qui dominent, et des mono-emplois aussi qui vont avec. Et puis c'est une zone où la menace, c'est non seulement que les terres partent à l'engrandissement si personne ne reprend, mais surtout l'urbanisation avec des grosses agglomérations très proches, et donc des terres qui risquent aussi de partir plutôt pour du lotissement et des zones artisanales et commerciales, surtout commerciales. Et donc voilà, c'est un projet qui a permis de résister à ça et de faire d'une ferme céréalière petite, d'en faire une ferme viable pour quatre personnes. Donc on va écouter un peu voilà des extraits d'entretien autour de ça. On écoutera un peu de musique, et puis à la fin, il y a quelques actus du monde agricole. Donc d'abord, pour commencer, il y avait plusieurs personnes qui avaient soumis l'idée qu'il y ait des explications pour les novices, pour les personnes qui n'ont pas de prérequis sur l'agriculture, des explications de comment ça fonctionne, en gros, l'agriculture. Donc on va commencer à la ferme des Routes, avec Martin, qui va nous expliquer un petit peu l'élevage des brebis laitières sur sa ferme. Donc c'est parti.
Moi je fais un agnelage par an. Un agnelage, c'est-à-dire qu'elles font un agneau, un bébé par an. Moi elles le font en novembre à peu près. Et l'agneau il reste trois semaines, un mois et demi, ça dépend des agneaux sous la mer. Donc ils têtent le lait de la mer. Et après je les enlève de leur mère. Et ce lait-là, je le traite, je le garde pour moi, pour fabriquer des yaourts, des faisselles, des tomes, des feta, etc. Enfin, toute ma production. Et l'agneau, soit je le fais partir en agneau de lait, c'est-à-dire c'est un agneau donc, qui est resté sous la mer pendant un mois et demi. Et puis ceux qui restent, eh bien, je les engraisse jusqu'à 5-6 mois pour Pâques. Généralement, c'est pour Pâques. Et là aussi, je le vends en direct, soit découpé, soit...
Et du coup, tu les engraisses là au foin et aux céréales.
Voilà, moi, nous, on est autonome sur la ferme. On fait tout notre foin. Donc, c'est du foin de luzerne. On fait aussi du trèfle dactyle. Et à partir de mars, ça dépend de la météo, mais à partir de mars, on les sort en pâture. Donc, sur des prairies qu'on a semées où il y a plusieurs variétés de plantes dedans. Des légumineuses et des graminées, puisque il faut un peu de tout. Et surtout, il y a une grosse variété de plantes différentes, parce que c'est comme nous, hein, plus on mange diversifié, mieux on se porte. Ben, les animaux, c'est pareil, moi j'essaie de faire pareil. Et donc, une brebis, elle me fait du lait grâce au foin et à l'orge que je lui donne. Et elle me fait à peu près entre 200 et 250 litres de lait par an, une brebis. Et avec ça, moi, je transforme tout. Et ça m'emmène jusqu'à fin août. Et fin août, je les taris. C'est-à-dire que j'arrête de leur prendre du lait. Enfin, je fais en sorte que le lait s'arrête de couler de leur mamelle. Et comme ça, je peux prendre une semaine de vacances avec mes enfants. C'est important. Et puis, un temps en juin, je leur ai présenté au bélier. Et le cycle recommence, c'est-à-dire qu'en novembre, annulage. En décembre, je recommence à tirer du lait des mers et c'est reparti, comme ça.
D'accord. Voilà. Et du coup, une mère, tu la gardes 6-7 ans, enfin, si elle...
Ah ben moi, plus elle vieillit longtemps, mieux ça me bat. Hein.
Tant qu'elle fait du lait et qu'elle n'a pas de problème, tu la gardes et...
Bah, d'autant plus qu'elle n'a pas de problème, parce que une brebis, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, hein, que les anciens m'ont dit, une brebis qui vit très longtemps, c'est-à-dire qu'elle est passée à travers toutes les maladies, elle est passée à travers toutes les épidémies, etc. Donc elle a forte raison d'avoir génétiquement une capacité à surmonter tout ça, quoi, à être forte. Donc moi, je vais garder ces agnelles, donc ces filles, pour les mettre dans le troupeau. Ça, c'est important. Et parce que moi, je suis en bio, et le bio, j'essaye de faire en sorte de soigner le plus naturellement les brebis. Mais en même temps, je suis assez nul pour soigner les brebis, donc je fais en sorte qu'elles tombent pas malades. Et pour qu'elle tombe pas malade, eh ben, j'applique plusieurs choses. Je fais de la prévention. Donc je leur donne à manger suffisamment, de bonnes choses, variées, et au bon moment. Et déjà, là, j'ai répondu à pas mal de leurs besoins. Donc normalement, elles devraient moins tomber malades. Elles sont dans un bâtiment qui est bien aéré, qui semble-t-il, elles ne me l'ont pas encore dit, mais il semble-t-il, leur est agréable. Et j'essaie de mettre en place une structure où elles n'ont pas de stress, choses comme ça. Bon, tout est améliorable, hein, mais pour l'instant, ça a l'air de... Ça va de mieux en mieux. Et puis, donc, si une brebis a des maladies, moi, je la soigne par homéopathie. Donc, je lui donne comme à nous, hein, je lui donne des petits granules, ou alors avec des huiles essentielles aussi. J'ai un vétérinaire avec lequel on a mis en place des protocoles. Si je vois qu'il y a tel symptôme... Ben, je leur donne soit de l'homéopathie, soit des hydrolats, soit des huiles essentielles. Enfin, c'est en fonction. Et puis, si vraiment il y a un problème que j'arrive pas à résoudre par ce biais-là, je m'autorise encore, j'ai le droit de faire des antibiotiques. Mais c'est vraiment un dernier recours.
Voilà, c'était l'explication de l'élevage de brebis laitières par Martin. Donc maintenant, on essaiera de le faire régulièrement sur comment fonctionne le maraîchage, comment fonctionnent les arbres fruitiers et tout ça. Maintenant, on va écouter un peu les présentations de la ferme et puis des trois personnes qui étaient sur place ce jour-là.
Donc la ferme est organisée autour de quatre productions. Donc il y a les brebis laitières et transformation fromagère. Il y a plantes aromatiques, médicinales, petits fruits, maraîchage et grandes cultures. Tout ça en bio pour toutes les productions. Et avec de la transformation, puisqu'on recherche comme une certaine valeur ajoutée. On a relativement une faible surface. Pardon. On a relativement une faible surface, puisqu'on a 50 hectares pour 4. Et donc Patricia transforme une grosse majorité de ses plantes. Les brebis, on transforme le lait, on vend l'agneau aussi en direct. Les céréales, on est en train de passer à plus de 50% en vente directe sur nos céréales. Avec une, on va commencer à transformer une partie en farine. D'accord. On fait des pois chiches, on fait des lentilles, etc. On cherche un débouché avec une plus grosse valeur ajoutée sur les céréales, parce que sinon Alain ne pourrait pas s'en sortir, on ne va pas sortir un salaire sur sa propre production, sachant que chaque production doit sortir un salaire. Puis en maraîchage, par exemple les tomates, le surplus, etc., on essaie de le transformer un petit peu. Bon, là, il y a moins de problèmes, puisque généralement un maraîcher arrive à sortir un salaire assez facilement.
Alors moi, je suis devenu paysan parce que j'étais fils de paysan.
D'accord.
Mon père, il travaillait ici et je suis devenu paysan, disons, tout petit. C'est un métier qui m'a intéressé. J'ai eu envie de faire paysan, donc très jeune, j'ai commencé à conduire les tracteurs et machin, j'ai dû être vacciné comme il faut, ça a été bon.
À l'époque, c'était quoi comme production? C'était comment?
C'était une ferme de 20 hectares.
Ouais.
À l'époque, mon père avait 4 vaches et puis il faisait des céréales, des plantes potagères pour la graine, en porte-graine.
Ouais.
Quand j'étais tout gamin, il y avait 1 hectare de pêché.
D'accord.
Il y avait de la vigne aussi, de la consommation familiale. Voilà, c'était ce qu'il y avait en gros. Le lait des vaches, c'est la coopérative laitière de Romain. Les céréales, elles portaient un organisme stocké aussi coopératif.
D'accord. Et du coup, toi, t'as repris la ferme, enfin, tu t'es installé
voilà, à quel moment? Je me suis installé, il y avait 20 hectares avec mon père, qui m'a installé avec 4 hectares, qui n'étaient pas la SMI à l'époque. Même avec des porte-graines, j'y étais pas arrivé. Donc, j'ai eu droit à aucune aide à l'installation, ni...
Mais du coup, t'as...
J'ai eu droit d'emprunter quand même. Voilà, c'était assez proche du bio. Je mettais des engrais chimiques et puis un petit peu de désherbant. Il y avait toujours à peu près 50% de la surface qui était cultivée en bio. C'est-à-dire sans pesticides, sans...
D'accord.
Qui était vendue en conventionnel, mais toute la nourriture des vaches, c'était bio. Les Louisianes, elles ne voyaient jamais un kilo d'engrais, ni... Il n'y a pas besoin d'y désherber. Quand je suis passé en bio, c'était limite, je ne savais plus comment j'allais faire pour m'en sortir. C'était la seule solution qui me restait, c'était de passer en bio, bon, avec la crainte de se faire envahir par l'herbe. Et ce qui m'a fait passer, c'est que ça faisait 3 ans que j'arrivais à cultiver des parcelles comme ça, sans me défendant d'herbe et tout ça. C'est ouais, pour ça que j'y suis passé. Mais j'étais en train de me poser la question du quel côté je vais, où je mets plus d'engrais ou où je passe en bio. Mais depuis le début de la carrière, c'était ça. J'avais suivi des stages de biodynamie, de tout, pour essayer d'être proche de l'agriculture bio.
D'accord.
Dans les années 80, c'était difficile à vendre aussi, le bio en grosse quantité.
Oui. Il ouais, n'y avait pas encore de
ouais, y avait pas de structure, il n'y avait personne pour l'acheter. Puis... Donc après, il fallait faire où les marchés, le détail, j'étais déjà tout seul. Et... Vendre en direct comme on fait là aujourd'hui, c'est, je sais pas, peut-être un tiers de temps au moins de consacré à la vente.
Ouais,
et l'idée, c'était oui, que ça continue, vu que j'étais passé en bio, que ça continue en bio.
Ouais.
Déjà, et comme on était 2 paysans sur Bézaille à peu près du même âge, ça ne pouvait pas être une continuité. Et puis la vente directe, ça m'avait toujours botté, donc c'était une possibilité, puis c'est pour ça.
Et du coup, tu t'en es occupé quand même. Enfin, tu t'en es inquiété assez tôt quand même de pouvoir aussi toi continuer, enfin installer des gens et continuer avec eux.
C'est un projet que t'es obligé de préparer. Bon, j'avais un collègue qui avait pris la retraite, qui avait installé un jeune, qui m'a expliqué un peu ce qu'il fallait faire et tout ça. Donc c'est ce qui a permis de préparer l'installation à peu près comme il faut, pour que ce soit assez facile, quoi. Le projet, il faut l'imaginer tout seul là-bas, savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, et puis préparer, proposer quelque chose de cohérent quand ils arrivent. Ben, une fois qu'ils sont arrivés, ça y est, c'est fait, ça commence, et voilà.
Moi, je pense que c'était un rêve de gamin que j'avais oublié dans l'adolescence, mais qui a ressurgi par hasard dans ma vie d'adulte. Et donc, j'ai commencé par être salarié dans des fermes en Chartreuse, dans des fermes de brebis laitières en transformation fromagère. Et c'est pendant un an pour voir un peu les caractéristiques de ce métier-là, les contraintes, etc. Et au bout d'un an, j'ai choisi de faire une formation à DI, formation pour adultes, passer mon BPREA. Et de là, j'ai commencé à chercher à m'installer. Ça a mis du temps, parce que j'ai mis 5 ans à m'installer. Bon, c'est dans la moyenne à peu près de tous les gens qui veulent s'installer en agriculture, hein. Et moi, je militais déjà dans la Confédération Paysanne. C'est là où j'ai rencontré Alain. On s'est rencontrés dans des manifs. Et lui, il avait un projet d'installer des jeunes sur ses terres, parce qu'il ne voulait pas que ça parte à un agrandissement, parce qu'il va bientôt partir à la retraite. Et je lui ai dit que moi, j'étais intéressé. Et puis, on a commencé à étudier l'opération en 2008. C'était en 2008. Et là-dessus, rapidement, fin 2008, il y a Raphaël, qui était en formation aussi à DI, en maraîchage, on l'a intégré dans l'histoire. En décembre, on a dit que c'était banco, on y va. Et on a fait une installation ultra méga rapide, puisque en mai 2009, on était officiellement à la ferme des routes. Tout était fait, quoi. Et donc c'est rapide parce que on a demandé des JA, on a demandé des pré-JA, donc on a fait pas mal de paplards en peu de temps. D'accord. On a pas mal de monde, donc c'était ça, pour ça que c'était rapide. Et Patricia nous a rejoint un an après en plantes aromatiques et médicinales.
C'est un vieux projet qui me trotte dans la tête depuis que je suis toute petite, en fait. Sauf que j'ai mis longtemps à vraiment me décider sur la production que j'avais envie de faire. Donc entre le moment où j'ai voulu faire ça et le moment où je l'ai fait vraiment, il s'est passé genre, on va dire 30 ans. Donc moi, en fait, à la sortie du collège, je voulais faire un lycée agricole et mes parents n'ont pas voulu. Parce que ça se passait bien à l'école et que voilà. Et puis mes parents, ils sont en classe moyenne et pour eux, faire un lycée agricole et même avoir envie de devenir paysan, c'était vraiment descendre dans l'échelle sociale. Donc en fait, ils voyaient pas du tout, pour eux, c'était pas pensable, quoi. Voilà, du coup, entre ça et puis le moment où je me dise en cours d'un boulot, mon dernier boulot, mon avant-dernier boulot, que vraiment j'avais vraiment envie de faire ça, il s'est passé 25 ans, quoi. Après, c'est tout un concours de circonstances, d'abord d'avoir refait un BTS agricole dans le Maine-et-Loire, donc d'avoir été un petit peu confronté à ce qui se faisait là-bas en plantes aromatiques et médicinales. Après, me retrouver dans la Drôme, où c'est aussi un département où on fait pas mal de plantes aromatiques et médicinales. Et puis, c'est un truc qui me passionne depuis tout le temps. Donc, ça m'a remis dans ce mouvement-là. Et quand j'en avais marre de mon boulot salarié, je me suis vraiment posée un temps en me disant, bah voilà, dans 2 ans, t'arrives à la fin de ton contrat, t'en as marre, tu voudrais faire autre chose, faudrait vraiment que tu te poses la question de ce que t'as envie de faire. Et du coup, je suis revenue, bah voilà, j'ai ressorti tous mes bouquins d'herboristerie, tout ça, et je me suis dit, ah ouais, c'était ça que je voulais faire en fait. D'accord. Donc, du coup, c'est en faisant une formation sur l'herboristerie à l'école lyonnaise des plantes médicinales pendant 3 ans que le projet a mûri petit à petit. Et en rencontrant des gens, en rencontrant aussi des manières de produire qui ne sont pas celles de la Drôme, mais celles plutôt des producteurs qui sont dans le syndicat simple.
D'accord.
Parce que c'est, dans la Drôme, en fait, c'est quand même beaucoup pour la distillation, enfin, c'est des grandes surfaces et tout ça, et j'avais pas du tout envie de faire ça. Il y a le côté quand même, on va dire, relation entre la plante et l'être humain qui m'intéresse quand même vachement. Donc voilà, donc bah, tout ça, ça prend du temps, hein, c'est oui. À force, quoi. Et voilà. Et du coup, bah, j'ai sauté le pas à la fin de mon avant-dernier boulot en 2006. j'ai fini l'école lyonnaise des plantes médicinales et j'ai refait une petite formation de 6 mois dans un CFPPA sur la transformation des plantes aromatiques et médicinales. Et voilà, et entre 2007 et 2009, ben, j'ai cherché du foncier pour m'installer. Donc il m'en fallait pas beaucoup, mais il m'en fallait quand même. Donc même quand on cherche 3 à 4 hectares, ben, en fait c'est super compliqué. Et bah, ça m'a pris 2 ans pour... Parce qu'en fait, j'ai rencontré Martin et Raphaël et Alain en mai 2009. Et du coup, j'ai pris ma décision en mai 2009. J'étais salariée jusqu'en août 2009. Donc voilà, je me suis lancée vraiment en septembre 2009, quoi. Et l'origine, elle est vraiment dans le fait de cultiver des plantes pour... J'allais dire vraiment vivre au contact des plantes qui vont soigner les gens, parce que je me voyais pas faire un boulot, enfin, juste de vente entre guillemets, ou de conseil, ou de naturopathe. En fait, c'était pas mon truc. J'avais besoin en fait d'être avec la plante du début à la fin parce que pour moi c'est important, je trouve, pour bien connaître la plante et savoir ce qu'elle a à dire pour être sûre en fait de ce qu'elle va faire sur les gens. En fait, c'est un travail de lien entre les autres êtres vivants, qui peuvent être des végétaux, mais qui peuvent être des animaux, et du coup, la société. Donc, quelque part, c'est... Pour moi, mon boulot de paysan, c'est arriver à traduire pour les autres ce qui est bon pour eux et pourquoi c'est bon, quoi. Voilà.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, sur le 102.2. On vient de s'écouter The Observers avec le morceau The Condition. C'est toujours les paysannes et paysans dans la lutte des classes. L'émission sur l'agriculture et les luttes paysannes. Du coup, on continue à la ferme des routes dans la Drôme. On va continuer à écouter des entretiens autour du fonctionnement collectif de la ferme, de leur installation et autre chose. Une petite chose avant, dans les entretiens précédents, il y a deux petits termes qu'on entendait. Donc un BPREA, c'est un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, donc c'est un diplôme pour adultes pour s'installer en agriculture. Et la DGA, c'est la dotation aux jeunes agriculteurs. Donc c'est un dispositif qui permet de bénéficier d'aide sous certaines conditions pour s'installer quand on est jeune. Voilà, donc bah, on s'écoute la suite tout de suite.
Donc la ferme, c'est une EARL, c'est-à-dire c'est une entreprise agricole à responsabilité limitée. On avait choisi ce système-là parce que au départ... Ça va être un peu compliqué, mais c'est pour les pré-JA, comme on n'était que deux jeunes agriculteurs au départ, les pré-JA, l'entreprise pouvait les prendre à son compte. C'est-à-dire qu'on pouvait financer tout ce qu'on voulait sur l'entreprise avec ces prêts-là, oui, alors ça. Que dans un GAEC, à l'époque, seul le projet du jeune agriculteur pouvait être finançable par les JA. On ne pouvait pas financer D'accord. le reste. Et comme il y avait de la reprise de matériel de Alain, il y avait le chat de terre, il y avait plein de trucs, quoi. On a préféré ça, et puis ça nous a permis aussi de faire un règlement intérieur qui se rapprochait plus du système entre guillemets coopératif que de l'entreprise à responsabilité lambda, quoi. Donc là, c'est vraiment chaque associé est à égalité avec l'autre, autant au niveau des parts sociales qu'au niveau du salaire. Donc, je pense que là, on se rapproche plus du système de coopérative. C'était important pour nous. Ça l'est toujours important pour nous. Ben, le fait de travailler à quatre sur une exploitation, c'est pas la méthode la plus simple d'un point de vue organisation, etc. C'est plus facile de s'engueuler tout seul, soi-même, sur son propre truc. c'est évident. Mais... on en parlait l'autre jour entre nous, on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a fait sur cette ferme en 2 ans et demi tout seul, quoi. Oui. À quatre, on a fait un outil qui fonctionne, puisqu'on, ça y est, on se paye depuis 6 mois. Donc en 2 ans, on se paye. On n'aurait jamais réussi ça tout seul. Ça demande énormément d'énergie, quand même un tempérament assez solide. Parce qu'il y a une charge de travail au départ qui est assez colossale. Tu dois apprendre ton métier sur le tard, parce que tu as beau être allé à l'école, ça suffit pas du tout. Tu dois apprendre à construire tout ce que tu fais, à démarcher pour vendre tes produits, à les transformer ou à les faire pousser, enfin bref, t'as énormément de choses qui t'arrivent d'un coup sur la face, c'est énorme, donc c'est pas évident. Et le fait d'être à quatre, bah, quand il y a quelqu'un qui a une baisse de morale, bah, y a les trois autres qui sont là pour le remonter ou l'aider, etc. Donc nous, on mutualise énormément le matériel, les moyens, que ce soit financier ou technique ou physique. Et ça aide énormément, c'est indispensable, quoi. On est parti du principe que de toute façon on était nul en communication, qu'on était nul en organisation. D'accord. Et que la communication, c'est 90% de la stabilité d'une association. Oui. Et donc on a pris assez rapidement, au bout d'un an et demi, on a pris un médiateur, enfin une médiatrice d'ailleurs, qui nous suit depuis un an et qui va continuer à nous suivre. Voilà, en raison d'à peu près un rendez-vous par un mois ou un mois et demi. Et ça nous permet d'avoir un interlocuteur indépendant, neutre, et de pouvoir rentrer dans le fond des soucis, le fond des problèmes, etc. et de se décharger, de se décharger d'un trop-plein ou de quoi qu'est-ce. Hein. Même si on apprend aussi à communiquer entre nous, à s'organiser, etc.
Dans une association, parce que là on est quand même sur une association à quatre, il y a aussi tout le défi humain, donc oui. C'est quand même super important et c'est un des points qui peut être le plus problématique, entre guillemets, enfin je ne sais pas comment dire ça. En fait c'est super dur, aujourd'hui au 21e siècle, je pense qu'il y a un grand défi de l'être humain, c'est d'arriver à bien se comprendre, à bien s'entendre et à bien échanger sur, enfin voilà, pour être sûr de qui on est, comment on est, et de se respecter soi et de respecter les autres. Et du coup, ça c'est aussi, je pense, un grand défi de l'installation ici, quoi. C'est vraiment d'arriver à ça et du coup qu'il y ait suffisamment d'échanges corrects entre nous pour que la ferme elle tournera d'autant mieux, que ça sera vraiment bien en place, quoi.
D'accord.
Donc voilà, quoi, parce qu'il y a forcément des ponts les uns avec les autres, et forcément l'avantage d'être plusieurs c'est que il y a toute la diversité en fait des idées, enfin voilà. Et si cette diversité-là, on n'arrive pas à la partager, ben on s'enrichira pas avec ça. Et du coup, ce sera dommage, parce que je pense que c'est ça qui va nous porter, quoi. Enfin, on est dans un boulot où c'est toujours en perpétuelle évolution, parce qu'on dépend vachement de ce qui se passe d'un point de vue climat, société aussi, enfin plein de choses comme ça. Et du coup, en agriculture, il faut jamais... Faut jamais se dire que ce qu'on fait en maintenant ça va durer pendant super longtemps, oui. Parce qu'il peut y avoir plein de changements, et du coup le fait d'être plusieurs ça permet d'avoir plus d'idées, et quand il y a un truc qui coince à un moment donné, de peut-être plus vite pouvoir changer son fusil d'épaule pour aller sur quelque chose de différent, quoi. Alors c'est le fait d'être à quatre, et après c'est le fait aussi d'être en réseau. Et donc quand on est quatre, on a forcément, j'allais dire quelque part, presque quatre réseaux différents. Et du coup c'est toute cette interrelation avec, j'allais dire, l'ensemble de la filière, de plein de gens qu'on connaît et tout ça, qui permet d'aller plus loin et de rebondir sur les trucs là où ça peut bloquer, quoi. Donc du coup... L'échange, il est super important, parce que c'est vachement important de se dire, ben là, ça va pas, je coince, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc d'arriver à le dire aux autres, que les autres ils respectent ça, qu'ils se disent oui, alors comment on pourrait faire, etc. Et du coup, ça, c'est super important, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas.
Mais le fait d'être arrivé, d'être parti d'une ferme qui fonctionnait déjà avec Alain qui était dedans et qui connaît tout le monde, à limiter la casse, on aurait été des petits jeunes qui s'installaient comme ça sans connaître personne autour, sans être épaulé par un agriculteur, ça aurait peut-être été différent. Mais là c'est une ferme qui est dans le coin depuis des générations, les gens la connaissent, connaissent Alain, donc ils ont appris à nous connaître. Et ils voient que en 2 ans on a sorti une bergerie, une grange, des serres, de la vente directe, les terres sont toujours en culture, et que d'année en année ça sort de mieux en mieux. Donc c'est, de toute façon c'est normal qu'au départ ils aient un doute. Ça me paraît logique, quoi.
Ouais.
Moi je sais qu'il y a des gens qui s'installent pas très loin, moi aussi j'ai des doutes. Je me dis ils font comme ça. Mais bon, on a eu beaucoup plus de coups de main que de gens qui nous ont mis des bâtons dans la roue. Il n'y a personne qui nous a mis de bâtons dans les roues. Mais il y a plein de paysans qui sont venus nous aider. Hein.
D'accord.
Ouais, mais là-dessus, nous, on n'a pas été... on faisait partie aussi du réseau de la Conf. Hein. Donc ouais. Tous les paysans du réseau Conf sont venus nous filer la main sans souci.
D'accord.
Ça, c'était important.
Et quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on se dit finalement on a déjà fait tout ça en si peu de temps, faut savoir aussi rester patient et faire les choses les unes après les autres, quoi.
par rapport à la transmission, là, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux gens qui vont... Enfin, pas forcément qui vont arrêter, mais qui ont passé la cinquantaine et qui commencent à réfléchir à ça.
Pas attendre la retraite pour s'y préparer. Il faut en parler longtemps avant, au moins 3 ans avant, pour se préparer à accueillir des gens et puis psychologiquement peut-être à travailler ensemble aussi.
Ouais.
Bon, ça n'a pas été mon cas, mais il y a des agriculteurs qui ont jamais travaillé avec quelqu'un et le fait de voir tous les jours quelqu'un d'autre et
ouais, sur la ferme.
Voilà, et puis s'entendre et tout ça, il faut s'y préparer, il faut. Et puis, ce qu'on veut garder, ce qu'on veut mettre à disposition, c'est important aussi.
L'optique de la ferme des routes, j'allais dire quelque part, parce qu'au début, moi, je pensais à m'installer toute seule, ça me faisait un peu peur, en fait, l'association avec des autres. Et l'optique de la ferme des routes, pour moi, il est là, c'est d'arriver à faire en tout petit, parce qu'on n'est quand même que 4, quelque chose qui pourrait ressembler à une société utopique, entre guillemets.
Back home. Let me tell you this, son. Can't beat the rank and file. Go get organized.
Vous êtes sur Radio Canu sur le 102.2. C'est toujours les paysannes et paysans dans la lutte des classes. Donc on vient d'écouter un reportage sur la ferme des routes dans la Drôme, sur le fonctionnement collectif de la ferme, et à la fin le morceau c'était Go Get Organized des Redskins. Désolé aussi pour les bruits dans les enregistrements, c'est des entretiens qui ont été réalisés sur la ferme, donc il y a forcément du bruit, et voilà. Donc c'est bientôt la fin de l'émission. Il y a quelques actualités et rendez-vous qui ont rapport à l'agriculture. Donc d'abord, on va peut-être écouter un petit morceau et après, on passe à l'agenda et aux actualités.
Fear that incarceration of some kind is near. I checked my head, intact with rules. I nearly became a goddamn fool. But I've heard voices, not in the head, out in the air. They called ahead through ripped out pickups, through thick and thin. They found a shelter under my skin. How many darkest moments and attracts the way ahead of us? How many final frontiers we gonna mount, and maybe no victory left? But if you stepped on path of sacred art and stuck it out through thick and thin, with undestructible. And so no longer live I in fear. Them are too greedy to pay my asylum bills. This is my life, and freedom's my profession. This is my mission throughout the whole flight duration. There is a core, and it's hardcore. All is hardcore when made with love. The love is voice of savage soul. The savage love is indestructible. How many darkest moments and traps to live of us? How many final frontiers we're gonna mount? With maybe no victory left. But if you stepped on path of sacred art and stuck it out through thick and thin, why not you become the one with undestructible?
Vous êtes toujours dans les paysannes et paysans dans la lutte des classes sur Radio Canu sur le 102.2. On vient de s'écouter Gogol Bordello avec le morceau Undestructible. Donc quelques actus avant la fin de l'émission. Alors déjà dans l'agenda, ce week-end il y a pas mal de choses qui se passent. À Lyon, donc on l'avait déjà annoncé la dernière fois, il y a un colloque qui s'appelle Sortir de l'industrialisme. C'est sur 3 jours à la Maison des Associations dans le 4e arrondissement. Donc c'est organisé par la revue La Ligne d'Horizon. Vous pouvez trouver toutes les infos sur leur site ou sur rebellion.info. Notamment demain vendredi, il y aura un atelier sur l'industrialisme dans l'agriculture avec différentes personnes qui interviennent. Toujours sur l'industrialisme, ou presque, dimanche après-midi au bar de l'autre côté du pont, cours Gambetta à la Guillotière. Il y a donc une après-midi discussion pour le bicentenaire de la révolution ludite contre le progrès. Donc à 15h, il y aura un débat sur les nouvelles technologies à l'école avec l'auteur d'un livre qui s'appelle La servitude au programme. Et puis à 16h, avec pièces et main d'œuvre, il y aura un débat discussion sur les puces RFID et leurs applications, donc entre autres dans l'agriculture. Voilà, ensuite toujours ce week-end, il y a l'arrivée à Paris samedi 12 de la caravane tracto-vélo qui partait de Notre-Dame-des-Landes jusqu'à Paris. Donc c'est à 10h30 Porte d'Orléans, voilà. Et plus près d'ici, à Annecy, il y a des collectifs qui appellent aussi à une manifestation de soutien aux opposants et opposantes à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc il y aura aussi une manifestation avec des tracteurs, donc ce sera successivement devant les locaux du Parti Socialiste et de l'UMP, donc qui représente les principaux soutiens à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, étant donné que le département, l'agglomération de Nantes, sont au PS. Voilà, ensuite un peu plus tard, le 19 novembre à Angers, il y a un rassemblement national contre un projet de loi qui risque de passer bientôt à l'Assemblée nationale. Donc c'est le projet de loi sur les certificats d'obtention végétale. Donc les certificats d'obtention végétale, c'est l'équivalent du brevet en Europe sur les êtres vivants et donc sur les plantes. On en avait parlé parce qu'il y a eu une manifestation à Genève il y a quelques temps devant l'Union pour l'obtention végétale justement. Donc voilà, il y avait une manifestation pour dénoncer ces accords et cette gestion notamment des semences. Donc là en fait la nouvelle loi, elle durcit encore la réglementation sur les semences et la possibilité pour les paysannes et les paysans de ressemer leurs récoltes. Donc ils devraient sur 21 espèces payer des royalties aux entreprises semencières à partir du moment où ils ressèment leurs propres récoltes. Et puis ça limite aussi encore plus que ça l'est déjà les échanges de semences entre paysannes et paysans, entre jardiniers et jardinières. Voilà, donc pour s'opposer à cette loi, donc il y a une manifestation à Angers. Angers qui est la capitale française en quelque sorte de la semence. Ça sera le 19 novembre donc, et il y a plus d'infos sur le site semonslabiodiversité.com. Voilà, et il y aura une manifestation devant l'Assemblée nationale, mais la date n'est pas encore fixée. Encore une petite info, donc le 5 décembre à Durban en Afrique du Sud, il y a le rassemblement du COP17 des Nations Unies, donc la conférence des parties des Nations Unies, par rapport au changement climatique. Et du coup, il y a un appel d'organisations paysannes et et autres d'Afrique, et puis de la Via Campesina au niveau mondial, qui appelle donc, on va lire un petit bout. Donc ça dit, nous appelons tous les mouvements paysans et organisations agricoles, ainsi que les travailleurs ruraux, les paysans sans terre et tous les membres du mouvement pour la souveraineté alimentaire à nous rejoindre pour une journée internationale d'action de masse le 5 décembre 2011 lors de la mobilisation de la société civile à l'occasion de la conférence climatique COP17 à Durban en Afrique du Sud. L'humanité est confrontée à une crise alimentaire, économique et écologique qui est indissociable du système néolibéral capitaliste régissant la production, la distribution et la consommation alimentaire. Ces multiples crises mettent en évidence les limites du système de production capitaliste néolibéral. Aujourd'hui, les sociétés transnationales et les gouvernements proposent de fausses solutions pour lutter contre le changement climatique, détournant de son objectif la conférence des parties des Nations Unies. Ce sera une journée d'action continue au cours de laquelle les paysans et paysannes et les travailleurs ruraux de tout le continent africain, en association avec les mouvements sociaux du monde entier, exigeront une véritable réforme agraire pour la souveraineté alimentaire, la révolution agroécologique comme solution au changement climatique, la restructuration du système alimentaire, une participation pleine et égale des femmes dans le nouveau système alimentaire et dans la société dans son ensemble, la construction d'un système alimentaire basé sur les besoins humains, la fin du contrôle des multinationales sur nos ressources génétiques, la souveraineté semencière afin que les semences puissent s'adapter et atténuer les changements climatiques. Nous appelons tous les mouvements paysans et de travailleurs ruraux à se mobiliser, à organiser des actions directes à leur niveau local, dans toutes les villes et régions du monde, à l'occasion de la journée de l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire, le 5 décembre. Voilà, donc c'était l'appel de la Via Campesina et d'un certain nombre d'organisations africaines. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. La semaine prochaine, à la même heure, ce sera Grain de Sable, l'émission d'actualité politique. On va vous laisser dans quelques minutes avec à 19h avec le Canu Info. Et d'ici là, on peut simplement rappeler que le blog de l'émission maintenant fonctionne. L'adresse c'est blog@radiocanu.org. Ensuite c'est /lutte paysanne, tout attaché. Si vous retenez pas, vous pouvez aller sur le site de Radio Canu, il y a la liste des blogs des émissions, et donc vous choisissez les paysans et paysannes dans la lutte des classes, et donc il y a déjà les premières émissions à écouter et quelques autres infos. Si vous voulez avoir plus d'informations, être tenu au courant de l'émission, c'est possible, il y a une liste aussi par internet. Il suffit d'écrire à lutte paysanne au pluriel tout attaché @riseup.net, riseup.net, et ou alors si vous n'avez pas internet, vous pouvez aussi écrire à l'émission en mettant à l'attention de les paysannes et paysans dans la lutte des classes à l'adresse de Radio Canu que je n'ai plus sous les yeux, mais c'est 24 rue Sergent Blandan dans le 1er arrondissement de Lyon. Voilà, et à dans 2 semaines, et bonne soirée sur Radio Canu.
Le paysan, il a un statut. De chef d'entreprise dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département ça fait 1 paysan par jour de moins, 1 ferme par jour de moins, voilà.
Mais tout ça parce que on défend l'agriculture de vie capitaliste.
Il y a trop de gens autour de nous qui continuent à tout s'accaparer, donc à ne pas laisser la place.
Un paysan, son but, c'est pas d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Bichonnons une petite oasis bio. bio arrosés par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.